France Inter.
Bonjour, c'est Nicole des Colonies. J'ai entendu cette semaine, lors d'une matinale, qu'en Charente, un nouveau gadget vient d'être dégainé par les pseudo-agriculteurs. AgriCivis, c'est le nom de ce nouveau machin pour avertir les citoyens lorsqu'ils répandent leur poison à proximité des habitations. Alors moi, quand j'entends que la distance minimale peut être de 5 mètres, parler de distance de sécurité, je me dis qu'on marche vraiment sur la tête en France. Au-delà, bien évidemment, du massacre de tous les environnements, se pose aussi la question de notre santé, de la santé publique, comme par exemple la concentration de certains cancers dans des régions très arrosées par tous ces poisons. Lorsque je lis aussi que le ministre de l'Agriculture vient de valider une dérogation pour l'usage pour les rivières de la belle Camargue d'un désherbant interdit en Europe. Une autre dérogation pour l'usage pour les endives de la benne floralaïne qui empoisonne les vers de terre et tue donc ainsi de nombreux oiseaux. Oui, la banalisation du mal, formule autrefois employée par la philosophe Hannah Arendt, est bel et bien en marche avec la démagogie avec un grand D au pouvoir. Au revoir, à bientôt. En tout cas, je suis bien dégoûtée de tout cela.
Mathieu, Orléans, j'allais écouter votre émission en différé et j'ai commencé par avoir une publicité pour un énorme SUV, mais d'occasion. Bon, c'est toujours assez ironique. Bonne journée à vous et merci pour l'émission.
Oui, bonjour, c'est Magali de Perpignan. Donc, j'habite le magnifique département des Pyrénées-Orientales qui connaît une situation critique en ce moment pour l'eau et la biodiversité. On continue à détruire des zones naturelles pour faire des lotissements, des golfs ou alors des voies cyclistes bétonnées au bord des ruisseaux. Voilà. Deuxièmement, on a eu la chance d'avoir 2 jours de pluie. La nature, elle s'est réveillée. On a eu des fleurs partout. C'était merveilleux, comme dans un désert qui d'un coup reçoit quelques gouttes d'eau. Là. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ça y est, ils sont encore en train de faucher, en train d'arracher tout. Alors qu'ils disent qu'ils font du fauchage raisonné. C'est pas vrai du tout. C'est complètement un mensonge dans le département, dans les communes d'ici. Je sais pas pourquoi, mais la nature, on l'aime pas ici. C'était mon coup de gueule.
Oui, bonjour, c'est Eric de Gérardmer dans les Vosges. Je vous téléphone au sujet de la réintroduction du grand tétras, oiseau emblématique qui a disparu de nos régions. Les causes en sont connues, son habitat n'est plus viable. Mais l'État et le parc des ballons a décidé de faire revenir ce tétras en allant chercher des exemplaires en Norvège et la préfecture qui a organisé une consultation publique. Plus de 80% de ceux qui ont répondu sont contre cette réintroduction. La préfecture a décidé de lancer tout de même ce projet. La GAPJ continue. Merci à vous et bonne émission.
Et on en parlera tout à l'heure avec Camille de ce sujet du grand tétras, le répondeur des coups de gueule de début de semaine. Merci pour vos appels. Continuez à râler ou à vous réjouir au 01 56 40 45 45. Il s'agit d'un impensé politique, le coût écologique des guerres et de la défense. Cela fait plus de 2 ans maintenant que les bombes s'abattent quotidiennement sur l'Ukraine et ce conflit, qui est d'abord un drame humain avec ses très nombreuses victimes civiles et militaires, est aussi une catastrophe environnementale de grande ampleur. Dès 2022, l'ONU recensait des milliers de destructions environnementales liées à la pollution de l'air, de l'eau, du sol et qualifiait de toxique la guerre dans ce pays qui abriterait plus du tiers de toute la biodiversité européenne. S'il est très difficile de quantifier les dommages écologiques, les ravages sur la nature liés à des conflits ne commencent pas avec l'Ukraine. La guerre du Vietnam avec l'agent Orange, les essais nucléaires dans le Pacifique et même la lutte du Larzac contre la militarisation du territoire illustrent différents impacts de l'empreinte écologique des armées. Est-il possible de concilier la guerre et l'écologie? La question peut vous sembler étonnante. Eh bien, on se la pose aujourd'hui dans le dossier de la Terre au carré avec nos invités Marine de Guglielmo Weber et Adrien Estève. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Marine de Guglielmo Weber. Vous êtes enseignante-chercheuse donc au programme Climat, Énergie, Sécurité de l'IRIS et l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes également directrice scientifique de l'Observatoire Défense et Climat. Adrien Estève, vous êtes quant à vous maître de conférence, spécialiste des relations internationales à Sciences Po Strasbourg. Et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, Guerre et écologie et Géopolitique de l'environnement. C'est publié aux Presses universitaires de France. On va donc se retrouver dans un instant pour parler écologie, écologie et défense et vous répondrez aux messages qui arrivent sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, on passe au vert.
Avec donc ce projet assez ubuesque concernant le grand tétras dans les Vosges et il sort lui rarement du silence de ses affûts, mais il a poussé lui aussi un coup de gueule contre ce projet, le photographe Vincent Munier. Coup de gueule sur les réseaux sociaux, c'est doublement inhabituel venant de lui.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Lemontagnier avec Mathias Alléon à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Des incendies dans les raffineries ou les usines chimiques, des destructions de barrages, des champs minés ou des carcasses de chars qui jonchent le sol. Derrière ces images de la guerre en Ukraine, on y devine la catastrophe humanitaire, mais aussi les impacts néfastes sur l'environnement. Selon les estimations des autorités ukrainiennes, près de 900 espaces naturels protégés ont été impactés par l'activité militaire russe. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la contamination des rivières et des sols qui pourrait compromettre l'habitabilité de vastes zones en Ukraine.
Et ça, c'était en 2022. BFM TV, l'écologie peut-elle être prise en compte par les responsables civils et militaires des organisations de défense? Eh bien, sujet au cœur de la Terre au carré cet après-midi avec nos invités. On va reparler de l'Ukraine dans un instant. Et c'est vrai que cette association de la guerre et de l'écologie peut sembler totalement antinomique. Est-ce qu'elle est prise en compte aujourd'hui ou est-ce que ça reste vraiment un impensé, voire un intouchable des politiques de défense, Adrien Estève?
Alors, dans une large mesure, ça reste un impensé et un intouchable. Cela étant, on observe depuis plusieurs années maintenant un discours environnemental et climatique de la part des organisations de défense, notamment en Occident. C'est le cas de la France et des États-Unis que j'ai étudié dans mon ouvrage « Guerre et écologie ». Et on se pose la question aujourd'hui des effets de ces discours sur les pratiques guerrières aussi. On voit qu'en Ukraine, on est face à une guerre moderne, contemporaine, qui détruit particulièrement l'environnement, avec des armées qui, bien sûr, ne sont pas des armées que j'ai étudiées, la Russie, l'armée russe et l'armée ukrainienne, mais en particulier l'armée russe, on voit, fait très peu cas de l'environnement. Est-ce que cela veut dire qu'on est à un tournant aujourd'hui, peut-être, avec un discours qui est de plus en plus accusé, d'une armée qui est de plus en plus accusée d'avoir des conséquences environnementales de ses opérations? On peut se poser la question aujourd'hui.
Ouais, et puis l'environnement, c'est aussi une façon d'affaiblir un peu plus l'ennemi. Bien sûr, hein. Donc c'est aussi un objet.
C'est une vraie stratégie de destruction.
Dans le conflit lui-même.
Oui, exactement.
Marine de Guglielmo Weber, la défense et l'écologie, ce sont deux mondes qui semblent s'exclure mutuellement. Hein. Pas franchement associables a priori. Est-ce que pour autant, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ces questions de climat et de biodiversité au sein même de l'armée alors?
Oui, alors tout à fait, on observe effectivement une reprise des arguments écologiques de plus en plus fortes au sein du personnel militaire. Et ce qui est intéressant, pour revenir un petit peu sur cet exemple ukrainien, c'est que au fil des deux dernières années, on a beaucoup vu mobiliser des arguments écologiques justement pour dénoncer les pratiques russes, finalement comme de vrais arguments, un discours géostratégique visant tout à la fois à dénoncer les pertes de biodiversité, mais aussi à pointer la convergence des intérêts écologiques et des intérêts de défense. Typiquement, au sein du personnel de défense européen, on a de plus en plus cette conscience que la sobriété énergétique et que l'indépendance dans ces derniers énergétique doit nous permettre tout à la fois de relever le défi de la biodiversité et aussi de contrer l'impérialisme russe. Donc on a aussi cette convergence-là.
Mais il y a aussi un facteur important, c'est que les armées elles-mêmes sont confrontées directement aussi aux effets, par exemple, du réchauffement climatique. On va en parler abondamment avec vous. Hein.
Alors ça, c'est peut-être un autre phénomène. On a un phénomène plutôt qu'on pourrait relier à un concept d'écologie de guerre, où là on va mobiliser l'écologie vraiment à des fins guerrières de mise en avant des mauvaises pratiques de l'ennemi. Et d'un autre côté, on a ce phénomène de ce qu'on appelle la sécuritisation du changement climatique, où petit à petit, les acteurs de la défense au fil des 20 dernières années se sont appropriés ce sujet climatique et on en fait un vrai enjeu de sécurité en disant « Regardez, le changement climatique affecte directement nos capacités de défense, affecte la sécurité de nos populations. Mmh. Et donc, il faut se l'approprier. »
Et donc, la part aussi est importante dans le conflit avec tous ces sujets donc environnementaux. Guerre et écologie, Adrien Estève. À partir de quand, finalement, on commence vraiment à s'intéresser à ces questions? Que ça ne remonte pas à l'Ukraine, hein, c'était bien avant.
La guerre a toujours détruit l'environnement, ça déjà on peut le dire. Alors, en revanche, le choc moral et juridique des effets environnementaux des guerres date plutôt du Vietnam, si on doit faire un historique de la guerre du Vietnam, où l'armée américaine emploie des armes qui sont, dès leurs premiers emplois, qualifiées de particulièrement destructrices à la fois pour les populations civiles et pour leur environnement, Et là, il y en a deux qui viennent directement à l'esprit, c'est le napalm tout d'abord, et l'agent orange.
C'est pas les mêmes choses d'ailleurs. Hein.
C'est pas du tout la même chose. Alors les deux sont utilisés pour détruire la jungle vietnamienne. C'est-à-dire que les Américains sont quand même très embêtés par les insurgés vietnamiens qui les attaquent depuis le couvert végétal de la jungle. Donc dans les deux cas, ils sont aussi utilisés pour détruire la jungle vietnamienne.
On va écouter cette archive de l'INA de 1970 sur l'ORTF à ce sujet.
Bleu, blanc, orange. Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation. En terminologie militaire, il s'agit d'armes de harcèlement. Détruire le couvert végétal pouvant servir d'abri et affamer l'adversaire en détruisant ses récoltes, en stérilisant les sols.
Les effets sur la végétation, les animaux, etc., les cultures vivrières, fait que dans certaines régions, il y a une famine et que les premiers à en souffrir sont les enfants. Ça, je crois que par conséquent, ce qui se passe au sud n'est pas acceptable.
La voix du pédiatre Alexandre Minkowski, donc en 1970, et donc Adrien et Steve avec le Vietnam, c'est la première fois qu'on se questionne vraiment sur ces armes qui détruisent à la fois les hommes, les populations, l'environnement, avec donc cet agent orange et le napalm, et ça devient même l'incarnation du conflit dans l'opinion américaine à l'époque.
Dans l'opinion américaine, dans les mouvements écologistes et pacifistes, ce qui est important, puisque le napalm devient l'incarnation à la fois des destructions de guerre et du caractère intolérable de la guerre telle qu'elle est menée, et aussi la destruction de l'environnement. Donc on a une convergence très forte de ces mouvements-là dans le mouvement protestataire contre la guerre du Vietnam. Et c'est de ces mouvements que va partir une catégorie dont on parle aujourd'hui, qui est la catégorie d'écocide.
Et on le découvre effectivement en vous lisant, c'est-à-dire que ce terme et cette bataille menée sur le front de l'environnement, et donc cette entité juridique écocidaire, elle naît à ce moment-là en fait.
Elle naît de la plume des juristes qui se positionnent du côté des mouvements écologistes et pacifistes, notamment Richard Falk à l'époque, qui donc écrit qu'on devrait reconnaître un crime environnemental de guerre, à partir du Vietnam, qui serait donc l'écocide.
Justement. Et ça a été le cas ou pas alors? Est-ce que c'était reconnu en tant que tel ou pas du tout?
Pas encore aujourd'hui. En revanche, la guerre en Ukraine a accéléré des discussions à la Cour pénale internationale pour éventuellement reconnaître l'écocide comme un crime de guerre et peut-être comme un crime contre l'humanité.
Ouais. Mais vis-à-vis de la santé des soldats américains, par exemple, ça aurait pu servir aussi pour considérer autrement, finalement, l'impact sanitaire, hein?
Ça aurait pu servir. Alors, les vétérans américains ont été dédommagés, eux. Quand ils ont déposé des plaintes contre l'armée américaine, c'était les militaires qui manipulaient l'agent orange ou qui en subissaient les effluves. Eux ont été compensés.
Et les populations vietnamiennes?
Absolument pas.
Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui, d'ailleurs, de la nature, là-bas, sur place, sur les forêts, donc, ont été largement décimées par les produits chimiques?
On est sur des forêts qui sont encore contaminées aujourd'hui, des zones qui sont encore contaminées. En France, on parle beaucoup des zones rouges. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, c'est très connu, avec des forêts mitraillées. Eh bien, au Vietnam, il y a aussi des zones qui sont très contaminées par l'agent orange aujourd'hui. Les nappes phréatiques le sont énormément. Et cela a des effets sur les écosystèmes et sur les populations.
Marine de Gouliel-Mauvais-Bert, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire déjà un inventaire des impacts de la guerre sur l'Ukraine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des impacts environnementaux, où c'est quand même très très compliqué de pouvoir l'estimer?
Alors, ça reste extrêmement compliqué de l'estimer, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent auprès des chercheurs sur les intersections climat-défense, d'essayer d'estimer les impacts environnementaux d'une guerre.
Et biodiversité
Et biodiversité, bien sûr, c'est extrêmement compliqué. On sait que c'est un désastre. Après, pour le quantifier très précisément, ça reste quand même très difficile.
Sur les dégâts, en tout cas, on parle déjà de dizaines de milliards de dollars d'impact, en tout cas sur l'Ukraine.
Oui, ce sont surtout des données qui viennent en fait du gouvernement ukrainien lui-même, du ministère de l'Environnement ukrainien, qui font un gros effort de documentation de ces dommages-là, en espérant qu'à la fin du conflit, on pourra enfin condamner la Russie pour ce crime d'écocide.
Pour écocide, justement.
Et que la Russie sera condamnée à réparer, et donc à payer.
Terres et habitats endommagés, frappes de missiles qui provoquent des incendies de forêt, les sols, l'eau polluée par les attaques sur les sites industriels, la menace nucléaire aussi, avec la centrale de Zaporijjia, par exemple, qui, miraculeusement d'ailleurs, pour l'instant, n'a toujours pas provoqué, en tout cas n'est pas à l'origine d'un accident nucléaire majeur. Comment on l'explique ça, Adrien Ester?
On n'est pas passé très loin non plus, il faut le dire à plusieurs reprises. L'explication tient peut-être au fait que, tout simplement, les deux parties sont particulièrement préoccupées par les conséquences que cela aurait au niveau régional cette fois-ci, puisqu'une explosion de centrale nucléaire, c'est quand même quelque chose de très...
Et donc qui concernerait aussi potentiellement la Russie.
Exactement.
Ouais, avec cette contamination, en tout cas pour les sols. qui pourrait durer très longtemps aujourd'hui, compromettre l'habitabilité de nombreuses zones. Hein, et l'Ukraine, là-dessus, j'ai découvert, aurait 30% de la biodiversité européenne sur son sol, c'est ça ?
Oui, c'est absolument énorme quand on y pense. Et aussi, l'Ukraine qui est une terre agricole. Et donc, vous parlez des conséquences écologiques, il y aura des conséquences alimentaires et sanitaires et économiques de très long terme.
Et qui est déjà devenu le pays le plus miné du monde. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier sur la prise en compte de l'écologie dans les politiques de défense. Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started? Hardest Part, c'était Olivia Dean sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Dans ces laboratoires souterrains, les expérimentateurs purent mettre la dernière main à la finition de la bombe. Afin de tirer tous les enseignements sur les effets de l'expérience, on a exposé autour du point zéro différents matériels militaires. Tout, désormais, est en place, depuis les équipes de décontamination jusqu'aux équipes chargées d'opérer, avant et après l'opération, certains relèvements. Voici maintenant que leur H est proche. Vous vivez dans le blockhouse de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française.
Voilà, un document INA de 1960, issu des actualités françaises avec un reportage à l'époque du service cinématographique des armées. Guerre et écologie, deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Est-il possible pourtant de considérer cette association de manière concrète? On en parle avec vous, Marine de Guglielmo-Weber de l'Observatoire Défense et Climat et Adrien Estève, spécialiste donc des relations internationales à Sciences Po Strasbourg et auteur de deux livres, Guerre et écologie, géopolitique de l'environnement, publié au PUF. Les essais nucléaires, Adrien Estève, autre sujet donc de pollution environnementale lié à la guerre, que ce soit d'ailleurs en Algérie comme on l'entendait, mais aux États-Unis ou en Polynésie française. Est-ce qu'on s'est interrogé à l'époque sur l'impact de ces essais sur la nature et les populations ?
Pas vraiment. Alors, il y avait déjà quand même des études qui étaient faites sur les retombées radioactives, hein, il faut le savoir. Mm-hmm. On avait des données militaires qui existaient sur le sujet. En revanche, les soldats n'ont pas été protégés, les populations encore moins, et l'environnement, j'aurais envie de dire, encore moins. Ce qui fait que les vétérans, par exemple, des essais nucléaires français dans le Sahara, notamment, se sont aussi mobilisés pour faire reconnaître certaines pathologies qu'ils avaient développées suite aux essais nucléaires français. Ouais.
Et ça a eu des effets quand même sur les discussions internationales en matière de dissuasion nucléaire ou pas du tout ?
Pas vraiment, si on regarde les traités de non-prolifération notamment, ils ne tiennent pas compte de l'environnement, ils ne tiennent pas compte de la santé en particulier. Donc c'est vraiment des traités qui sont vraiment de désarmement, ce qui n'apporte pas vraiment ces dimensions-là. Mmh. On les retrouve en revanche plus tardivement. En France, on a un épisode traumatique très connu, c'est le Rainbow Warrior, où on a des écologistes qui protestent contre les essais nucléaires, Greenpeace en l'occurrence, et un navire qui se fait couler par les services de renseignement français, cette fois-ci en Polynésie. Et justement, c'est la première fois, là, pour le compte, où on mettait l'accent sur les impacts environnementaux.
Ouais. Autre séquence historique intéressante, c'est les luttes du Larzac, parce que c'est un autre exemple qui illustre notre sujet aujourd'hui, avec une mobilisation contre la militarisation du territoire qui a fait plier l'armée. Et là encore, vous le racontez, c'est un tournant aussi, hein ?
C'est un tournant, parce que c'est sur le territoire français, en tout cas, c'est la première fois que les mouvements écologistes s'opposent de front à l'armée sur le terrain. Et c'est donc cette lutte du Larzac a été un moment très important de séparation entre militaires et écologistes, oui. Si vous voulez, hein, de critiques très écologiques très fortes de l'armée, et en même temps de l'armée qui n'entendait pas forcément ces arguments-là.
On va réécouter une archive pour terminer sur ce sujet du Larzac de 1978.
Le Larzac, nous le prenons dans nos mains et nous en faisons un drapeau. Dans cette affaire, deux images s'affrontent. Et la petite guerre de position que se livrent les paysans et les militaires fait songer à une gigantesque partie de dames. L'armée encercle certes les bastions de résistance avec ses 6000 hectares acquis à l'amiable, mais les paysans, grâce aux groupements fonciers agricoles, sont parvenus à lui souffler plus d'un millier d'hectares. Des terrains stratégiques qui sont autant de verrous bloquant la progression militaire.
Voilà, avec de fortes oppositions, hein, cette ruralité pacifique et harmonieuse et cette militarisation du territoire. Et puis, victoire aussi, hein, finalement, du petit contre le géant à l'époque.
Exactement, et événement fondateur pour l'écologisme français.
Ouais. Camille, est-ce qu'on a des questions déjà ?
Oui, Jeff nous écrit, outre les militaires et les armées, il faudrait s'intéresser aux industriels. Est-ce que Marine de Guglielmo Weber, ils sont pris en compte ces industriels dans vos travaux, que ce soit à l'IRIS ou à l'Observatoire Défense et Climat ?
Alors, nous, nos travaux concernent principalement les capacités des forces armées françaises. Parfois, on va prendre en compte les industriels lorsqu'il s'agit d'éprouver les impacts des changements climatiques sur les équipements, les infrastructures, etc., des soldats. Et dans ce cas de figure, on va effectivement inclure les industriels de la production des équipements, etc. Mais ça reste quand même à la marge de nos travaux qui sont principalement centrés sur les activités militaires.
Pourtant, la production d'objets, alors là, en ce moment, il y a beaucoup de... C'est des obus, je crois, qui sont énormément fabriqués, Adrien Estève, notamment pour fournir l'Ukraine. Ça, c'est pas du tout pris en compte aujourd'hui, ça passe à travers les mailles.
En tant que problème écologique, pas du tout. Non, là, c'est la priorité stratégique aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, et ce qui s'est toujours passé avec les industriels, c'est qu'ils ont toujours eu des exemptions, déjà. Mmh. Il faut le dire, hein, pendant très longtemps, les industriels ont bénéficié d'exemptions pour les activités de défense, au nom de la sécurité nationale. Ça a un peu cédé à la fin de la guerre froide, où ils ont été obligés de se conformer à certaines réglementations, notamment européennes, sur notamment certaines substances dangereuses. C'est la réglementation REACH, notamment en Europe. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de recul encore, mais je serais curieux de voir comment cela fonctionne exactement.
Et c'est quoi qu'est-ce qu'on pourrait dire le pire ? C'est plutôt les munitions, les avions de chasse,
drones ?
Les drones, je sais pas.
C'est différents types de pollution. Le problème des munitions et des obus, c'est donc la contamination des sols. La contamination des sols. Après, si vous regardez les drones ou les avions, c'est donc, pour les avions, les émissions carbone, par exemple, ou les largages d'hydrocarbures. Pour les drones, c'est de la pollution s'ils se détruisent ou s'ils bombardent aussi. Mmh. Ça dépend de quel type de drone.
Et pour la marine, hein, que ce soit sous-marin, navire, de guerre, on sait pas.
Pollution aux hydrocarbures, hein, la plupart du temps. Nettoyage notamment des cuves.
Marine de Guglielmo Weber, parler d'une politique de défense durable, ça voudrait dire quoi concrètement ? Ça paraît tellement antinomique.
Effectivement.
Mais les termes existent ou pas ? Ils sont utilisés par l'armée eux-mêmes ?
On peut le voir passer dans les documents de doctrine, et effectivement. Alors, généralement, c'est utilisé pour qualifier des politiques de décarbonation des activités, des forces armées. Donc ça va d'abord être utilisé pour qualifier la recherche d'énergie alternative, et c'est de verdir les équipements, ouais, les infrastructures.
Donc c'est l'éco-conception, on pourrait dire quasiment,
je dirais
des matériaux de défense.
Ouais, tout à fait. Ouais. Au cœur de cette défense durable, on est surtout sur l'éco-conception.
Et ça s'applique vraiment, il y a une question qui tombe à l'instant de Simon, sur savoir si cette éco-conception est vraiment concrète, quoi.
Alors, de ce que je sais, c'est une éco-conception qui va surtout concerner les infrastructures. On va être vraiment à la marge des activités de défense. On va essayer de verdir les infrastructures, les emprises militaires. Maintenant, pour le cœur du métier, c'est-à-dire quand même des véhicules et de l'armement, on reste quand même très loin de ce qu'on pourrait qualifier de durable.
Les chars électriques, ça pourrait marcher, ça, ou pas? On pourrait rouler à l'électrique
Je pense pas. Pareil, on entend parfois parler de chars à l'hydrogène. Je pense que c'est encore très très lointain et pas une si bonne idée que ça de mettre de l'hydrogène sur des champs de bataille.
Ouais. Adrien et Steve, vous parlez d'éco-efficience hein, quand même. Ça veut dire quoi alors dans le secteur de l'armée ça?
Oui, alors moi je me distinguerais du mot de décarbonation. Je ne pense pas que les armées soient vraiment dans une démarche de décarbonation. Elles sont plutôt dans une démarche d'efficacité énergétique et d'efficience énergétique parce que la guerre coûte cher. Et donc l'idée c'est donc d'essayer d'être économe en énergie.
Par exemple, on pourrait utiliser des énergies renouvelables hein, sur les terrains de guerre ou pas?
À la marge. Il y a des projets en France, notamment un projet d'éco-camp qui serait autonome en énergie, mais on ne le fait pas pour décarboner. On le fait parce que les convois d'hydrocarbures sont souvent attaqués. Et donc on essaye de produire son énergie localement pour éviter ces grands convois, donc les limiter au plus possible. C'est toujours la préoccupation, et ça, il faut toujours regarder ça à l'esprit quand on traite ce sujet, la préoccupation stratégique surpasse très largement la préoccupation écologique.
Mais les drones solaires, par exemple,
ça existe. Ça se développe en tout cas, mais encore une fois, parce qu'ils ont un avantage stratégique. Ils permettent de rester en l'air très longtemps, ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés, parce qu'ils se nourrissent donc du soleil, qu'ils peuvent rester faire de la reconnaissance pendant très très longtemps, et c'est en ça qu'ils sont intéressants.
C'est pas
pour l'écologie.
On imagine bien. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré.
Et l'heure de passer au vert avec vous, Camille Cronier.
Et reconnaissez-vous qui produit ce drôle de son? Alors, c'est pas un cochon, non?
Oui.
Deuxième essai. Petit pop, là, comme quand on débouche une bouteille. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça ne vous dit rien. C'est typique de la parade de l'oiseau forêt. J'ai nommé le grand tétras, plus gros oiseau forestier en Europe. On a vu son plumage noir, ses yeux bordés de rouge et son bec blanc depuis 10 000 ans au milieu des massifs. Mais il fond comme la neige au soleil du changement climatique. Disparu, le grand tétras, dans les Vosges en particulier, dont il est un emblème. Les Vosges, où nous autres humains avons encore eu une idée tellement bonne qu'elle a fait sortir du silence habituel de ses affûts un autre animal bien connu dans le coin, Vincent Munier. Le photographe a poussé un coup de gueule la semaine dernière sur Instagram, un texte bien senti publié en story, le genre de truc qu'il ne fait quasiment jamais.
Franchement, c'est super rare. Ouais, complètement. J'aime pas du tout ce genre de médias. Mais là, il y avait une certaine révolte, en quelque sorte. Ça me touche trop pour que je me taise.
Alors, la brillante idée, la voilà. Un arrêté préfectoral paru mardi dernier, le 16 avril, autorisant à capturer d'ici la fin décembre 2028, donc pendant 5 ans, jusqu'à 200 grands tétras au total, 200 grands tétras pris en Norvège pour ensuite les relâcher dans les Vosges. Ils appellent ça du renforcement, bien du renforcement de population.
Non, c'est pas vrai, parce que le groupe Tétra Vosges, dont je fais partie, hein, mais pas que, on a quand même un système de comptage qui est au point depuis des dizaines d'années, qui est très précis. Et là, en l'occurrence, on a eu des contacts avec 3 poules en 2023, et depuis là, 2024, on a fait pas mal de comptages, relevé des pièges, rien. Donc, c'est plus viable. La population, il reste quelques poules, à l'heure où on parle, elles sont probablement mortes. Et donc là, c'est bien une réintroduction, et on pourrait presque parler d'introduction, parce que c'est quand même un oiseau scandinave, qui va arriver dans un endroit où il n'a pas du tout le même régime alimentaire, pas le même climat, donc ça va être extrêmement violent.
Autrement dit, les grands tétras norvégiens vont mourir eux aussi dans les Vosges, comme ça a été le cas avec le même genre d'opération dans le Massif central par exemple. Et c'est un des plus grands défenseurs de l'espèce qui vous le dit.
Mais oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que On devrait être les premiers peinés et finalement les premiers à vouloir cette opération. Mais étant donné qu'on connaît quand même l'exigence de cet oiseau et que là, en l'occurrence, le milieu dans les Vosges n'est plus habitable pour lui, c'est clair, hein, on n'a plus du tout d'hiver, il y a plus de prédateurs, de virus évidemment, des tiques incroyables et une pression de tourisme folle aussi. On le voit bien avec nos pêches photos, on a une surfréquentation hors sentier. Donc là, on se dit, c'est juste pas possible, quoi. Et pourtant, je suis pas contre les réintroductions. Il y en a qui ont été extrêmement bénéfique. Mais voilà, là, le grand tétras, franchement, de partout en Europe, toutes les tentatives se sont soldées par des échecs. Et ça, c'est quand même pas rien.
Vincent Munier dénonce des égos démesurés d'interventionnisme qui n'ont pas pris en compte les enquêtes publiques défavorables, comme l'avis de nombreux scientifiques indépendants, et des technocrates de l'environnement qui avancent tout seuls.
C'est dur, hein, j'aime pas affirmer les choses, mais là j'ai une légitimité dans le sens où je connais un peu la bestiole, parce que c'est elle qui m'a fait grandir, qui m'a fait découvrir la forêt. Ma première nuit sous un sapin, tu vois, j'avais 12 ans, c'était pour cet oiseau. Mon père, il a passé plus de 50 ans de sa vie à protéger... à tenter de le protéger. Et donc, on a un petit peu de légitimité pour donner notre point de vue sur ce projet du Parc des Ballons et de la préfecture des Vosges.
Un peu d'humilité ne ferait pas de mal, mais en attendant que ça leur traverse l'esprit, 5 associations en face ont déposé un recours pour demander la suspension du projet au tribunal de Nancy, mais aussi en Norvège. Le message de ces combattants est tristement clair. Laissons le grand tétras s'éteindre dans les Vosges et posons-nous les vraies questions.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours une espèce totem pour protéger un milieu? Moi, je me pose la question. Et c'est là où est le combat. C'est vraiment essayer de travailler sur le milieu plutôt que sur une espèce qui n'a plus, malheureusement, moi je suis le premier triste, qui n'a plus sa place dans les Vosges.
Mais heureusement, d'autres donnent de l'espoir.
Ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, on peut voir la cigogne noire qui revient dans mes forêts étant gamin. J'aurais jamais imaginé ça, donc c'est quand même super. La chouette chevêchette, pareil, elle était inexistante, elle est là mais partout. Le grand-duc revient aussi. Et en plus, c'est des retours naturels, hein, un peu comme notre loup. C'est-à-dire que si on fait attention à nos habitats, et qu'on est un peu plus humble, en quelque sorte, bah ça peut revenir tout seul.
L'ode à la forêt et au grand tétras disparu de Vincent Munier, reparti là pour 35 heures de train direction la Norvège.
Et ben on lui souhaite bon courage et on le salue et on l'embrasse. Merci beaucoup Camille Cronier.
Marine de Guglielmo Weber, l'humilité, c'est pas forcément un mot qui s'applique aux armées, non?
Non, je pense pas. Si je suis honnête, je pense pas, non.
Est-ce qu'il en faudrait pas un petit peu plus parfois, Adrien Estève, ou est-ce que c'est compliqué, comme vous disiez, il y a aussi un enjeu d'efficience, bien évidemment, d'efficacité.
Il y a un enjeu d'efficience, l'humilité peut être stratégique aussi parfois, et c'est là que se niche le débat. L'humilité, surtout, par exemple, ne pas détruire l'environnement quand on est en train d'opérer dans la guerre, parfois, ça a un intérêt stratégique. C'est de rester humble face à l'environnement parce qu'on s'aliène les populations locales si on détruit leur environnement. Et la France, par exemple, au Sahel, ou les États-Unis en Afghanistan et en Irak, ont mis en place des doctrines assez restrictives parfois pour protéger l'environnement, justement pour ne pas nourrir des insurrections.
Et vous qui êtes l'Alsacien de l'étape aujourd'hui, ce grand tétras de la forêt des Vosges, il vous touche ou pas?
Il me touche, oui.
Vous connaissiez cette histoire?
Je ne connaissais pas cette histoire du tout, non.
Vous connaissiez l'animal ou pas non plus?
Non plus, non, voilà. Pour tout vous dire, mais ça me touche parce que...
Dommage, vous ne le verrez pas.
Voilà,
si, vous verrez peut-être des Norvégiens, mais ils ne vont pas rester longtemps.
Ou les photos de Vincent Munier.
C'est ça peut être une bonne idée.
Une autre façon de le voir. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de ce lien entre la guerre et l'écologie.
Asthmatique, à courir la carrière, sur un fil on traverse, alors sur un vent de travers, parce qu'on reste ce que nous sommes. Soigner les rhumatismes, handicap et paix, les sorties de piste, les sortilèges, ce qui nous porte, ce qui nous pèse. Par les tics, on fait des gosses, on fait des clics, on s'émeut face à la mort, on se remet mort, on s'ignore, parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort, c'est ma faute, le c'est ma faute, je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort, c'est ma faute, le c'est ma faute. J'ai perdu là, j'suis plus bien, j'ai mal. Pour
bulle, ça bascule. On avance sans recul. La matrice qui materne, alors c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Je reste ce que nous sommes. On se détend, on se déclique. On refait des gosses, on refait des clics. On s'aime plus face aux morts. On s'ignore, là si s'ignore. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, le sémaphore. Je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, le sémaphore. J'ai perdu là, j'suis plus bien où j'ai mal.
Sémaphore, c'était Hervé.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Avec nos invités pour parler guerre et écologie, Marine de Guglielmo Weber de l'Observatoire Défense et Climat, Adrien Estève, spécialiste des relations internationales à Sciences Po Strasbourg. Alors, on a parlé tout à l'heure du respect de l'environnement, autant que faire se peut, hein, de la part de l'armée et de la défense sur les terrains. Mais il y a donc aujourd'hui aussi la question du réchauffement climatique. Comment d'abord l'armée l'intègre dans sa politique de défense? Et puis, quels sont les principaux impacts justement du changement climatique en matière de sécurité et de défense nationale? Cette question, elle est pour vous, Marine de Guglielmo Weber.
Oui, alors effectivement, les forces armées, quand elles réfléchissent à l'interaction entre les sujets environnementaux et les sujets de défense, elle va quand même plutôt s'intéresser à l'impact de l'environnement sur ses activités de défense.
Oui.
Y a cette préoccupation environnementale, climatique à la marge.
À la marge, on l'a bien compris, quand
voilà.
même. Hein,
ouais. Mais le cœur du sujet, c'est comment est-ce que l'environnement va affecter nos capacités? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire la guerre comme avant, même s'il y a un changement climatique qui dégrade notre environnement et qui peut nous causer des dommages.
Ça multiplie clairement les menaces aujourd'hui pour une armée, par exemple?
Alors oui, il va y avoir effectivement plusieurs choses. Le premier axe de réflexion pour les forces armées, c'est l'impact des changements climatiques sur leur capacité opérationnelle, c'est-à-dire tout simplement sur leur capacité à faire la guerre. Et donc on va se demander si les changements climatiques vont affecter le bon fonctionnement des équipements déjà des forces armées. Et l'image d'Épinal de cette préoccupation, c'est peut-être les bottes des soldats au Mali durant l'opération Serval en 2013, la semelle des bottes fondait et se détachait des chaussures des militaires français. Donc ça, c'est vraiment l'image type. Alors il y a la question des bottes, mais il y a peut-être plus stratégiquement le bon fonctionnement des systèmes d'armement, le bon fonctionnement des systèmes de stockage énergétique, etc.
Et la santé des militaires quand même,
ouais,
aussi,
bien
non
sûr. Alors il y a la santé.
La chaleur extrême, c'est aussi
tout à fait
un facteur très délétère.
Il y a la santé, donc on a des soldats qui sont en proie à de plus en plus de coups de chaud, de problèmes d'hydratation aussi. Et puis, puisque vous parlez des enjeux sanitaires, il y a aussi la question de l'exposition à des enjeux infectieux. Les changements climatiques ont tendance à augmenter un peu la zone d'expansion des maladies infectieuses, etc. On sait qu'on a des soldats qui sont de plus en plus exposés. Et par exemple, dans la Caraïbe insulaire, des soldats qui doivent de plus en plus gérer des épidémies de dengue, par exemple. Et ça, c'est aussi un enjeu assez structurant. Et puis, dernier enjeu peut-être dans cette grande catégorie capacitaire, oui, c'est les infrastructures. Des infrastructures, donc tout simplement des bases militaires qui, alors le plus souvent, vont être sur des zones côtières et vont être affectées, exposées à des cyclones, des phénomènes de submersion. Donc tout ça, il faut l'anticiper et il faut se demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte nos bases de défense? Est-ce qu'on les relocalise avec toute la logistique que cela impliquerait? Donc il y a des réflexions vraiment sur ça. Et puis deuxième vraiment enjeu, enfin grande catégorie d'impact des changements climatiques sur les activités de défense, c'est les missions des forces armées. Et il y a une question qu'on se pose de plus en plus, c'est est-ce que les changements climatiques vont pousser les forces armées à faire de plus en plus d'opérations de secours aux populations,
ouais, avec la multiplication des catastrophes, par exemple.
Exactement.
Parce que là, on fait appel à l'armée sur évidemment les conséquences d'un ouragan, d'une montée des eaux, d'inondations.
Tout à fait. On a des populations qui sont de plus en plus exposées à des catastrophes. Il y a aussi les feux de forêt. Et on a vu avec l'opération Héphaïstos qui était à l'origine cantonnée au sud-est de la France, qui a été élargie à l'ensemble du territoire.
Beaucoup de départements, oui. Et à tout le territoire maintenant. Ouais.
Tout à fait. Et donc ça pose vraiment la question de l'implication des forces armées qui doivent se demander si elles vont monter au créneau de la sécurité de la population, de la sécurité humaine, ou si elles vont choisir de rester sur leur cœur de métier qui est de faire la guerre.
Oui. Et la réponse, vous l'avez déjà, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de se démultiplier sur
tout
différentes situations, différents scénarios.
C'est non seulement un enjeu pour la sécurité française. Il va falloir que les forces armées viennent prêter secours aux forces de sécurité civile si on veut s'en sortir. Mmh. Et puis, c'est aussi un enjeu de rayonnement, de puissance internationale, puisque demain, l'État qui aura le plus de rayonnement, ce sera aussi l'État qui sera capable d'aller porter secours aux autres en cas de catastrophe.
Mmh. Adrien Estève, un autre aspect évidemment très important, c'est la multiplication des conflits géopolitiques dus également au réchauffement climatique, puisque parmi les effets, il y a la raréfaction par exemple des ressources, et que ça joue aussi sur les tensions dans les pays.
Ça joue aussi sur ces tensions, mais il faut toujours être assez prudent quand on fait le lien entre dérèglement climatique et conflictualité, à ne pas négliger le facteur politique. C'est-à-dire que le dérèglement climatique amplifie des tensions, mais qui préexistaient déjà. Mmh. C'est une sorte de révélateur de déficience aussi, hein. Donc par exemple, la guerre en Syrie, on l'a souvent assimilée à une guerre d'origine climatique parce qu'il y avait une sécheresse terrible dans le croissant fertile juste avant. Cette sécheresse, si on regarde un peu la chaîne de causalité, elle était aussi causée par les choix agraires de Hafez al-Assad, puis de Bachar al-Assad, qui ont précarisé une grande partie du territoire syrien et qui dépendait énormément des ressources en eau venant du ciel, donc des pluies. Et c'est donc des mauvais choix agraires qui ont conduit à cette sécheresse, puis peut-être à la conflit.
Mais on parle aussi de guerre de l'eau, hein, qui sont de vraies tensions directement liées aussi à la raréfaction de cette ressource.
On peut parler de guerre de l'eau, mais la coopération est toujours une option aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de lien mécanique. Voilà, j'insiste toujours beaucoup sur ce...
Petite parenthèse, vous parlez de la Syrie, il y a aussi des conséquences pour les populations, c'est-à-dire vous parlez de la sécheresse, les populations qui sont déplacées, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus rien, là aussi il y a des graves conséquences.
Il y a des graves conséquences, oui, pour la sécheresse, et là, les populations se déplacent non seulement pour la sécheresse, mais pour la montée des eaux aujourd'hui. Si on regarde un pays comme le Bangladesh aujourd'hui, toute la partie sud qui habite dans le Delta est amenée à se déplacer dans les années qui viennent.
Un message de Catherine, la seule politique de défense durable, c'est la paix, non, au témoin d'un doute.
Ah oui, c'est vrai ça, tiens.
Ça, c'est pas dans les pistes, ça, non.
Et dans le même registre, on pourrait se dire que la seule politique énergétique qui vaille la peine d'être explorée, c'est la sobriété. Pourtant, on n'en entend pas tant parler que ça.
Adrien Estève, la paix, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour la planète, non ?
C'est excellent pour la planète et pour l'écologie, malheureusement.
Pour l'humanité.
C'est plus en odeur de sainteté aujourd'hui, j'ai l'impression, depuis ces derniers années. Mais oui, pour répondre à cette question, oui, c'est la meilleure politique de défense durable.
Un message de Marie qui nous écrit de Guyane, des exercices militaires nombreux dans la forêt, outre la pollution audio, les milliers de douilles laissées au sol sont une catastrophe écologique. Il y a toujours un écart entre le discours et l'action. Et puis j'ajoute un message de Gérard qui nous pose une question, lui, sur les bombes à uranium appauvries régulièrement testées en plein air en France. Adrien Estève.
Alors pour les douilles, pour la premier aspect, oui, aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus une obligation des soldats de les ramasser. Donc c'est un truc, quelque chose qui évolue un tout petit peu à la marge aujourd'hui. J'ai pas de vue systématique, mais bon, en tout cas, voilà, on essaye de faire un peu mieux. L'armée essaye de faire un peu mieux, parce que voilà, je suis chercheur. Mais disons que ensuite, pour le deuxième aspect, les armes à l'uranium appauvri, alors j'ai pas de données sur le territoire français. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont utilisées sur les théâtres d'opérations aujourd'hui, hein, notamment en Ukraine, et qu'elles sont extrêmement dommageables pour l'environnement. On l'a vu pendant la guerre du Golfe déjà.
C'est quoi, elles polluent l'air en fait? C'est quoi les
polluent l'air? Elles se mettent dans les sols, elles irradient pendant très longtemps les zones concernées, et voilà, les retombées radioactives sont assez terribles.
On parlait hors antenne du conflit à Gaza, par exemple. Parce qu'il faut aussi réaliser que ces pollutions environnementales, elles sont là pour durer et pour impacter aussi plusieurs générations, au fond.
Oui, alors je suis pour qu'on lie vraiment le bilan écologique au bilan humanitaire souvent d'une guerre. Et c'est vrai que quand on regarde les questions environnementales de défense, il ne faut pas donner l'impression qu'on s'éloigne des victimes civiles. Les dommages environnementaux de guerre vont impacter les civils sur plusieurs générations. À Gaza, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de polluer les sols de Gaza en profondeur, hein, parce que l'armée israélienne essaie de détruire les tunnels du Hamas, donc bombarde très en profondeur, ce qui a des effets sur le système d'écoulement des eaux,
les nappes phréatiques,
sur aussi le système d'égout, hein, tout simplement, donc ça détruit tout ça de manière extrêmement violente. Ça détruit les terres agricoles à Gaza également. Donc aujourd'hui, le bilan humanitaire de ce qui se passe à Gaza, il va falloir le prendre sur plusieurs années, voire plusieurs générations.
Autre question de Alain qui voudrait savoir, alors c'est pas très ragoûtant, mais si les cadavres d'animaux ou les cadavres humains sur les sols ont des effets sur les cours d'eau par exemple.
La réponse est oui. Il peut bien sûr y avoir des contaminations qui viennent de victimes civiles ou animales dans les cours d'eau, oui, tout à fait.
Marine de Guglielmo Weber, est-ce qu'il y a des régions géographiques du monde qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont été identifiées comme telles sur l'échiquier international face précisément au changement climatique?
En matière de conflictualité, ouais. Oui, alors on a mené un travail sur la question à l'Observatoire Défense et Climat, où on a effectivement essayé d'isoler les régions où il y avait tout à la fois une forte vulnérabilité climatique, mais aussi une très forte conflictualité avec une dimension environnementale importante. Et donc on s'est dit que c'était des zones à surveiller pour les forces armées en matière d'exacerbation des conflits sous l'effet des changements climatiques, avec encore une fois toute la prudence que rappelait Adrien, puisque les liens entre conflits et changements climatiques sont encore débattus dans la littérature scientifique, et bien souvent ils sont beaucoup moins directs que ce que l'on croit.
Pour autant, est-ce qu'il y a quand même des zones particulièrement sensibles dont vous pourriez nous parler, peut-être pour nous donner un exemple ou deux?
On peut parler notamment de la zone Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, de l'Amérique latine, on peut parler de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique Ouest. Enfin, ce sont des zones en fait où il y a déjà une forte conflictualité autour des ressources, donc notamment hydriques ou des terres arables, avec bien souvent, puisque la conflictualité n'est jamais seulement motivée par la ressource en tant que telle, mais aussi des représentations divergentes de ce qu'il faut en faire et plus généralement de la manière dont il faut habiter l'environnement. Donc on a de la conflictualité, on a déjà de la friction dans ces endroits, et effectivement les changements climatiques, en venant exacerber la pression sur les ressources, peuvent venir révéler les tensions latentes et les inégalités existantes. Par exemple, si on prend l'Amérique latine, on sait que les conflits pour l'eau ont quadruplé sur les 20 dernières années par rapport aux 20 années qui ont précédé. Et donc ça s'explique pas seulement par la raréfaction des ressources en eau, mais aussi par la manière dont cette raréfaction des ressources est gérée par les autorités politiques. Et là, notamment dans ce cas de figure, on voit que c'est aussi lié à une pression démographique très forte, à une très mauvaise gestion des réseaux de distribution de l'eau qui sont vétustes, à des inégalités sociales absolument explosives. Donc tout ça, effectivement, permet de délimiter des zones, des régions d'intérêt sur lesquelles les forces armées vont essayer de redoubler les efforts en matière de veille.
Adrien Estève, on prend l'exemple de la fonte des glaciers, hein, que ce soit en Amérique du Sud d'ailleurs ou dans l'Himalaya, qui ont des répercussions effectivement sur les populations, mais tout ça dans un contexte évidemment politique. Hein.
Dans un contexte politique, et le rôle du politique aujourd'hui, c'est d'anticiper ces risques climatiques. Et on les connaît très bien, les risques climatiques aujourd'hui, grâce au travail fondamental du GIEC. On peut prévoir la crise climatique, contrairement à ce que certaines personnalités politiques disent.
Tout est écrit, noir sur blanc, on a tous les scénarios.
Voilà, ouais. Voilà, donc, qui aurait pu prévoir la crise climatique? Le GIEC le fait depuis de très nombreuses années, et les scientifiques le font très bien. Donc aujourd'hui, toute tension qui viendra, qui sera issue du dérèglement climatique, sera une tension qui aura été mal anticipée.
Message de Jean-Pierre. L'agent orange continue de causer des dommages sur les descendants des populations civiles et militaires vietnamiennes touchées à l'origine. Malformations physiques et neurologiques chez les enfants et petits-enfants. Je suis membre d'une association française qui aide par parrainage et bourse ces enfants. Et puis je vous lis un autre message d'Amoudi. Mes parents sont originaires d'un village bombardé au napalm par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Il n'y a pas que les Américains qui ont provoqué des écocides. Merci de le dire. On a tendance à l'oublier parfois, ça, oui, Adrien Estève?
Je l'ai indiqué dans le livre, mais c'est vrai que souvent c'est pas cité par la littérature. La France, dans ses guerres coloniales, a beaucoup utilisé le napalm, effectivement.
Et est-ce qu'on sait, par exemple, là on parle des américaines et françaises, est-ce qu'il y a une armée au monde qui est plus écocidaire qu'une autre ou pas?
C'est difficile à dire. Hein, comme le disait Marine, c'est très compliqué d'évaluer les conséquences environnementales des conflits, des guerres. La Russie paraît aujourd'hui comme une force vraiment qui est écocidaire au possible dans ce qui se passe en Ukraine. L'armée israélienne, dans ce qu'elle fait à Gaza, apparaît être aussi une force quand même relativement écocidaire. Hein, aujourd'hui, on peut le dire. Donc on peut faire une hiérarchie dans l'horreur, mais il est important de reconnaître le crime aujourd'hui en lui-même.
Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle dit nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
Luciole, c'était Chris Garneau à l'instant sur France Inter. Allez, on est encore pendant 4 minutes avec nos invités Marine de Gulielmo-Weber et Adrien Estef pour parler donc de ce lien, si c'est possible de le faire, entre l'écologie et la défense. Et vos messages qui vous font réagir visiblement.
Et Camille. Oui, on a même le président de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, Limousin, qui nous écrit que le 126e régiment d'infanterie s'entraîne en ce moment sur le cirque de Ladoux en Corrèze et que ça met en péril la reproduction du Grand-Duc et du Faucon Pèlerin. Est-ce que... Donc en fait, il ne regarde pas les calendriers de reproduction, en l'occurrence.
Alors, normalement, ce qui s'était passé à une époque, c'est qu'il y avait des partenariats avec... il me semble que la LPO en faisait partie, hein, pour essayer un petit peu de cadrer les activités d'entraînement avec effectivement la biodiversité et différents autres paramètres environnementaux. J'ai l'impression que le dialogue est rompu là.
A priori. Autre message, Sophie, dans les forêts de l'Aisne, elles sont inexploitables parce que le bois est plein de métal des munitions de la Première Guerre mondiale. Donc ça n'a pas encore été nettoyé, si je ne sais pas comment je peux le formuler, Marine, de Guglielmo Weber.
Oui, malheureusement, c'est terrible, mais je pense qu'on n'arrive pas à quantifier la quantité de métaux qui s'accumulent sur le territoire français depuis des siècles. C'est juste.
Je me souviens d'une chronique qu'on avait faite ici sur les lacs français avec les munitions justement qui gisaient dans l'est de la France en particulier. Hein, le nombre de munitions de la Seconde Guerre mondiale,
absolument,
était absolument hallucinant en termes de chiffres. C'était
alors pas seulement immergé, mais parfois abandonné dans des caves aussi. Donc on n'a pas encore vous voyez. On parlait de la comptabilité écologique des guerres tout à l'heure, on n'a même pas encore sur le sol français chiffré exactement ce que ça représente.
Autre message, Patrice, qui suggère ça, souhaitable peut-être que les profits réalisés par les entreprises d'armement soient bloqués pour participer à la fois à la reconstruction des pays ayant subi des guerres et aussi pour dépolluer. Est-ce que ça, ce sont des pistes qui peuvent parfois être envisagées ?
Alors, je saurais pas dire si c'est envisagé actuellement. Je sais pas si...
Envisager sans doute pas. Envisageable peut-être, c'est très compliqué aussi à mettre en place, notamment parce que le débat est lancé mais n'est absolument pas à ce stade de maturité aujourd'hui. Je pense qu'on en est encore très loin malheureusement.
Encore un message, Camille, si
on a Franck, alors je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai. Je me souviens de mon service militaire pendant lequel, par exemple, j'ai assisté à des tours de véhicules pas tous légers dans la cour de ma caserne pour épuiser le stock de carburant et s'assurer de son renouvellement à l'identique sur le prochain budget. Est-ce que ces pratiques sont encore existantes, Adrien Estève ?
Ce sont des pratiques qui sont avérées, qui ont existé pendant très longtemps dans l'armée française. On essayait d'avoir le même quota de carburant d'une année sur l'autre, donc on cramait le résidu en fin d'année pour pouvoir bénéficier du même quota l'année suivante. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on en a tellement parlé que j'espère que ce n'est plus le cas.
Marine de Guglielmo Weber, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'adapter pour les armées du monde entier aujourd'hui dans le contexte de ce changement climatique.
Tout à fait. L'adaptation, c'est l'une des priorités stratégiques des forces armées françaises et pas que. C'est l'armée américaine qui a lancé vraiment les réflexions sur le sujet.
Avec l'arrivée de Biden, c'est ça
il avait... même, depuis les années 90, on a...
Mais il les avait relancés, Biden, en tout cas.
Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une priorité stratégique parce que de toute évidence, on ne parviendra pas à résister aux effets des changements climatiques si on n'adapte pas nos infrastructures ou nos équipements.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Adrien et Steph, je renvoie sur vos deux ouvrages « Guerre et écologie, l'environnement et le climat dans les politiques de défense », c'est votre thèse, et « Géopolitique de l'environnement », tout ça aux presses universitaires de France.